journal Paul Tillier. Bonjour Paul.
Bonjour à tous.
À la une de l'actualité.
Rien n'a résisté. La ville de Poma soufflée par une tornade. Les toits, les arbres, les voitures. Tout s'est envolé. Nous sommes sur place dès le début de ce journal. Un questionnaire sur les violences sexistes et sexuelles distribuées aux enfants de la maternelle à la primaire. Le ministre de l'Éducation nationale redoute des résultats sismiques. À suivre, l'entreprise Lapierre, fleuron français du vélo qui évite la liquidation. Enfin, du bricolage. Mais dans l'espace, la française Sophie Adnaud ressort de la Station Spatiale Internationale. Quelques minutes auront suffi. Le village de Poma dans l'Aude, balayé par une tornade de plusieurs dizaines de mètres hier en fin d'après-midi. Un phénomène aussi rare que puissant. Dans un fracas de tuiles, de verre et de tôle, les vents à plus de 200 km/h emportent tout sur leur passage. 300 maisons détruites, des habitants sous le choc. Deux d'entre eux sont hospitalisés dans un état grave. C'est un bilan miraculeux, confie le maire Hervé Ginet.
Oui, moi, pour avoir parlé avec les secours, avec les professionnels, pompiers ou autres, même eux affirment que c'est un véritable miracle. La commune aurait pu avoir 20, 30 victimes. Le côté matériel, comme on dit, c'est très dur, c'est douloureux, on perd tout ce qu'on a. Et par contre, il n'y a pas de victimes. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir.
Bonjour Jeanne-Marie Marco.
Bonjour tout le monde.
Vous êtes sur place pour ici Occitanie, à Poma. Comment les habitants se sont-ils protégés face à cette tornade ?
Eh bien, ceux qui étaient chez eux au moment de la tornade se sont confinés, en tout cas ceux qui ont eu le temps de le faire, parce que vous l'avez dit, l'événement a été très rapide, quelques minutes à peine. J'ai par exemple discuté avec un père de famille de 3 enfants, quand il a vu le nuage sombre se diriger vers sa maison et entendu ensuite le bruit sourd du vent, eh bien ils sont tous descendus à la cave de la maison, ils se sont tous mis dans d'anciennes cuves à vin. C'est comme ça qu'ils se sont protégés. Une autre habitante me raconte que c'est le cumulus de son cellier qui l'a sauvé. La cuve d'eau lui a servi de bouclier. Au total, il y a eu 39 blessés. Vous l'avez dit, deux personnes graves. Personne ne manque à l'appel, mais la préfecture de l'Aude reste prudente et continue les recherches. Le bilan humain sera très certainement définitif dans les prochaines heures. Un nouveau point presse est prévu dans l'après-midi.
Jeanne-Marie, on parle de 300 maisons détruites. A-t-on une idée de l'ampleur des dégâts ?
Bah, les dégâts sont considérables, quasiment les deux tiers des maisons sont touchées dans cette petite commune audoise qui est entourée de vignes. C'est vraiment une commune carte postale. L'école Le Petit Prince, où 90 enfants devaient faire leur entrée la semaine prochaine, est impraticable. La cour est jonchée de gravats, la voie ferrée est coupée avec des arbres sur la chaussée. La mairie est aussi détruite. La mairie, depuis quelques minutes d'ailleurs, déconseille aux habitants de boire l'eau de la commune. Des bouteilles d'eau vont être distribués dans les prochaines minutes. En ce moment, c'est barbecue ici. Un repas est fourni gratuitement à tous les sinistrés et aux secouristes de cette tempête dans l'Aude.
Jeanne-Marie Marco, ici Occitanie, à Poma, donc pour cet événement rare en France. En moyenne, on dénombre plusieurs dizaines de tornades chaque année selon Météo France, des tornades d'intensité variable. Par ailleurs, plusieurs plages des Bouches-du-Rhône et du Var sont interdites à la baignade. Ce midi, les orages violents d'hier soir ont détériorer la qualité de l'eau.
Les résultats pourraient être sismiques.
Voilà le mot choisi par le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray. 10 millions d'enfants de la maternelle au lycée vont remplir un questionnaire à la rentrée sur les violences sexuelles et sexistes. Bonjour Marie Bouéda.
Bonjour.
Que sait-on de ce questionnaire ?
Eh bien, en fait, tous les ans, les élèves du primaire au lycée répondent à un questionnaire sur le harcèlement scolaire. Là, le ministre propose d'élargir ce questionnaire aux violences sexuelles et d'y inclure les enfants de grandes sections de maternelle. Ce sera un questionnaire anonyme. Si l'enfant ou l'adolescent le souhaite, il pourra donner son nom et parler à un adulte de confiance. Un chiffre que rappelle le ministre Édouard Geffray, 1 enfant sur 10 est victime de violences sexuelles en France.
Alors pour ce qui est de l'élaboration des questions, parents d'élèves, professeurs et psychiatres seront sollicités. Ça soulève déjà des inquiétudes.
Notamment sur l'anonymat. Oui, sur le papier, pense Aurélie Gagné, porte-parole de la FSUS NUIPP, principal syndicat des professeurs des écoles. Mais dans la pratique, c'est autre chose.
Comment un enseignant ou une enseignante pourrait garantir l'anonymat en apprenant qu'un de ses élèves subit des agressions sexuelles ? Comment peut-on garantir l'anonymat à un enfant de grande section de maternelle qui ne sait pas lire ni écrire ? Comment est-ce qu'on va recueillir ses réponses en lui garantissant l'anonymat? Là aussi, ça paraît assez incongru comme idée.
Autre question, si un enfant ou un adolescent confie subir des violences sexuelles, comment recueillir ces témoignages? Demande Adeline Nédé de la FCPE, Fédération des parents d'élèves.
On libère la parole, il faut vraiment un protocole pour moi clair et des moyens supplémentaires, du personnel vraiment formé, plus d'infirmières scolaires, plus de médecins scolaires. Il suffit pas seulement d'alerter.
Questionnaire qui sera distribué au mois de novembre. Il reste donc 2 mois pour formuler les bonnes questions et la gestion de ces témoignages.
Marie Boueda, l'équivalent de 7 millions d'euros de cocaïne découvert la semaine dernière dans un camion par les douaniers de Bourges. C'était sur l'autoroute A71. Plus de 100 kilos de poudre à l'arrière de ce poids lourd. Le chauffeur de nationalité britannique a été interpellé. Combien auront coûté les canicules en France de cet été? Le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel, présidera une mission parlementaire sur le sujet. Les travaux débutent demain. Résultat attendu début octobre. Le chiffre avancé par la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, est de l'ordre de 10 à 15 milliards d'euros.
13h06, le fabricant de vélos Lapierre placé en redressement judiciaire.
Avec une durée d'observation de 6 mois, c'est l'entreprise qui en a fait la demande. Son actionnaire majoritaire, le groupe néerlandais Axel, est en difficulté financière. Bonjour Lucas Chelmignac.
Bonjour Paul, bonjour à tous.
Ici Bourgogne, l'audience avait lieu ce matin au tribunal de commerce de Dijon. Lapierre qui échappe donc à la liquidation.
Oui, l'information est confirmée par Olivier Caracoch, le procureur de la République de Dijon, qui assistait lui-même à l'audience. À la sortie, William Perrier, le directeur général des cycles Lapierre, est resté évasif. Sourire en coin, il affirmait qu'il souhaitait informer ses 106 salariés avant la presse. Eh bien, c'est chose faite. Le tribunal de commerce donne donc 6 mois à la marque dijonnaise pour redresser la barre. Pendant ce temps, ses dettes sont gelées et son activité continue. Une bulle d'air qui va permettre aussi à William Perrier et ses équipes d'étudier les offres de potentiels investisseurs. Et ce n'est pas ça qui manque. Lapierre dit en avoir reçu une 20aine en 2 semaines. Il faut donc faire le tri et suivre un plan bien précis, travailler depuis des mois. On connaît notre feuille de route et on la déroulera, nous a confié William Perrier.
Lucas Chelmignac, ici Bourgogne. Sangoku pour faire de la concurrence à Mickey et Disneyland. Un parc sur le thème du manga Dragon Ball doit s'installer sur le site dans l'ancien parc Mirapolis. C'est dans le Val d'Oise, fermé il y a 35 ans. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman est derrière ce projet. Il l'a annoncé hier lors d'un déplacement en France. Une visite coûteuse. La ville de Metz va dépenser 250 000 euros pour accueillir le pape fin septembre. L'Union des familles laïques de Moselle saisit la préfecture et demande la note, un justificatif de ces dépenses. Une grande partie sera notamment consacrée à la location d'écrans géants pour retransmettre en direct cette messe qui aura lieu dans la cathédrale. 400 kilomètres de vide spatial sous les pieds et la planète Terre comme spectatrice. Sophie Adenau retourne dans l'espace. L'astronaute française doit finir les réparations entamées la semaine dernière d'une antenne de communication à l'extérieur de la Station Spatiale Internationale. Elle ressort aux alentours de 14h30 et pendant plus de 6 heures, un travail éprouvant. C'est rien de le dire, Olivier Aymontant, la combinaison, le scaphandre porté par Sophie Adenau est lourd.
Ce scaphandre de sortie extravéhiculaire, dit EMU, peut se décomposer en 2 parties. Une assez souple qui englobe les jambes et les pieds, et un torse rigide en fibre de verre, sur lequel se greffe un gros sac à dos qui renferme notamment les batteries, la radio et les réserves d'oxygène. Sur Terre, l'ensemble pèse 140 kilos. Si dans l'espace, l'absence de gravité résout ce problème de poids, la taille et la nécessaire pressurisation interne de ce scaphandre limitent beaucoup la mobilité et obligent les astronautes à de gros efforts physiques qui laissent des traces, comme l'expliquait en fin de semaine dernière chez nos confrères de TF1, l'astronaute française après sa première sortie.
Le lendemain, clairement, on se sent courbaturé de partout, et en particulier du haut du corps, parce que c'est le haut du corps qui travaille très fort. À chaque fois qu'on tient quelque chose dans sa main, même si on ne serre pas très fort, c'est comme si on serrait très fort une balle de tennis.
Pour remplacer ce scaphandre, dont la conception remonte aux années 70-80, la NASA a sélectionné en 2022 une société, Axiom, qui développe depuis une combinaison qui servira aussi bien pour la Station Spatiale Internationale que pour les astronautes occidentaux qui remettront un pied sur la Lune. Un nouveau petit pas annoncé pour l'instant en 2028.
Olivier Aymon, voilà donc pour cette mission bricolage pour l'astronaute Sophie Adenau dans un peu moins d'1h30 dans l'espace. Le zooparc de Beauvais Beauval renonce à son projet de centre d'accueil de dauphins destiné notamment à accueillir certains cétacés de Marineland à Antibes. Une décision justifiée par le coût du chantier trop cher, désormais estimé à 45 millions d'euros contre 25 à 30 millions. Initialement, les recours juridiques engagés, mais aussi l'absence d'engagement du gouvernement.
Merci Paul Tillier. Rendez-vous à 14h pour la suite des infos. Allez, tenez-vous prêts. Dans une minute, je vous emmène en week-end à moins d'une heure de Lille sur les sommets des Monts de Flandre avec votre radio ici.
Mais qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici ?
Peut-être parce qu'on parle de vos vies, parce qu'on est utile, parce qu'ici, on sourit.
Alors, même si vous n'êtes pas d'ici, même si vous êtes loin d'ici,
il n'y a pas mieux qu'ici. Vous êtes les bienvenus.
Actu locale, musique et bonne humeur, la nouvelle saison d'ici. Votre radio locale ?
Plus de vous.
Plus de nous.
Plus de vie. D'ici.
Ici partenaire. Cet été, le fort vous réserve bien des surprises. Le père Foura n'a pas fini de surprendre ses invités. Nouvelles épreuves, nouveaux personnages, règles inédites et le retour des anonymes dans l'aventure. Pour remporter le trésor, il faudra se surpasser avec Emmanuel Petit, Moguise, Priscilla Betty, Gwendal Marimoutou, Anna Godefroy et Théo Voyer, l'anonyme de la semaine. Fort Boyard, présenté par Cyril Ferraud, jeudi à 21h10 sur France 2 et France.tv. Un événement ici.
ICI. Toute la journée.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Les vacances d'été sont bientôt terminées, mais nous continuons de voyager pour vous donner envie pour un prochain week-end, peut-être, quand vous voulez. Ce mardi, nous partons donc dans le nord de la France pour découvrir les hauteurs de la région.
Quand vous pensez au Nord, vous vous dites sûrement que tout le monde parle ch'ti, qu'il y a des mines, des briques rouges partout, qu'on mange que des frites au maroilles et que surtout ici, tout est plat. Mais moi, je vous emmène en Flandre, dans une région située au nord de l'île bien différente. On y trouve des maisons colorées, des gens à l'accent flamand et des monts. Plusieurs collines qui offrent des panoramas spectaculaires sur la région. Et à la fin de ce voyage, vous saurez pourquoi un chansonnier a choisi le nom d'un village de Flandre comme pseudonyme. Je m'appelle Emmanuel Bordeaux, je suis animateur à ICI Nord. Je ne suis pas né ici, mais j'ai été complètement conquis par la Flandre. Parce que quand je m'y balade, que ce soit à vélo ou à pied, rien n'est monotone. Ici, le paysage ondule, se transforme, surprend. J'adore cette succession de monts alignés, que l'on surnomme la Cordillère des Flandres. Leur histoire, leur paysage, leur tradition. Bienvenue dans Partir, dans le Nord, sur les sommets des Monts de Flandre. Notre point de départ, c'est le Mont Cassel. Nous sommes ici à 45 minutes en voiture au nord de l'île, juste à côté de la Belgique, au sommet de ce qu'on appelle l'Everest des Flandres, 176 mètres d'altitude. Ouais, c'est peut-être pas très haut, mais ici, c'est le roi des monts. Tout en haut de ce village de 2000 habitants, élu village préféré des Français il y a quelques années, le spectacle est grandiose. Une vue à 360 degrés, un panorama unique qui change au fil des heures et des saisons. Autour de nous, c'est une carte postale flamande. Le bocage essayé et ses petits chemins sinueux, les grandes plaines verdoyantes qui s'étendent à perte de vue, les villages typiques et les grandes fermes carrées. Et avec une bonne paire de jumelles, on peut voir jusqu'à la mer du Nord. Si vous venez à Cassel en voiture, votre premier réflexe sera sûrement de vous garer sur la Grand Place. Mais attendez, j'ai un meilleur plan pour vous. Plutôt que de chercher une place en plein centre, je vous conseille de monter directement jusqu'à la place du Général Vandamme, au pied du Belvédère. Il y a souvent de la place, et en plus, vous serez déjà à un point de vue magnifique. De là, laissez votre voiture et partez à pied. Suivez les petites ruelles pavées qui serpentent le long du jardin public. Ici, on marche sur l'histoire. Il reste encore des vestiges de l'ancien château. Ça date de l'époque gallo-romaine. Plus doucement, on plonge dans l'âme de Cassel quand on emprunte les ruelles étroites aux pavés gris. Et au détour d'un passage, on arrive dans le cœur historique de la ville. On est maintenant sur la grande place de Cassel. Entièrement pavée, cette place est entourée de bâtiments aux cachets typiquement flamands. Avec leurs pignons à gradins et leurs toits à forte pente, on pourrait se croire à Amsterdam ou à Bruges. L'imposant hôtel de ville avec sa façade en briques capte aussi tout de suite le regard. Ici, il y a aussi plusieurs estaminets, des cafés-restaurants typiques de Flandre. Mais je vous en parlerai un peu plus tard de ça. Alors l'autre édifice incontournable ici, c'est le musée de Flandre. Il est installé dans l'un des plus beaux bâtiments flamands de la région. À l'intérieur, on peut découvrir une riche collection d'art flamand. Ça va de la Renaissance à l'époque contemporaine. On trouve du Bosch, du Rubens, des chefs-d'œuvre qui témoignent du génie des peintres flamands. Ah, au fait, j'ai un autre conseil. Si vous passez par Cassel, ne repartez pas les mains vides. Ici, le terroir, c'est une affaire sérieuse et surtout gourmande. D'abord, les fromages. Vous connaissez sûrement la mimolette. Eh bien, sachez qu'elle est française et non hollandaise. C'est une fierté locale, tout comme les nombreuses bières artisanales brassées dans la région. Et pour les becs sucrés, je vous recommande de goûter aux gaufres flamandes. Ces petites merveilles toutes dorées, là, sont fourrées au beurre et à la vergeoise. C'est un sucre de betterave au délicieux goût caramélisé. Pour en trouver, c'est facile, hein, il suffit de flâner autour de la Grand Place. Ici, pas de piège à touristes, hein, que du bon, du vrai, du local. Alors pour moi, la meilleure période pour visiter Cassel, c'est le printemps. Mais le mieux sans doute, c'est de venir le lundi de Pâques, parce que ce jour-là, la ville célèbre son carnaval d'été. C'est vraiment la plus grande fête populaire de Cassel. Dès 6h du matin, tambours et grosses caisses résonnent dans les rues et les géants en bois et papier mâché de Cassel, reuse papa et reuse maman, comme on dit en flamand, se réveillent. C'est la seule fois de l'année d'ailleurs que vous pourrez voir ces géants de 6 mètres de haut déambuler et danser ensemble dans les rues. Tant que vous êtes encore à Cassel, je vous invite à vous rendre au Jardin des Récollets. C'est situé à quelques centaines de mètres de la Grand Place. C'est un lieu de référence en matière de jardin flamand. Et faut vraiment venir de mi-mars à mi-juillet. Le jardin se métamorphose. Il y a des centaines de milliers de bulbes qui fleurissent. Perce-neige et narcisses en début de saison, et puis après c'est une explosion de tulipes et d'espèces plus rares. Mais je vous ai promis de vous faire découvrir mon lieu préféré, le Mont des Cats. C'est à 20 minutes en voiture d'ici. Allez, on y va. Ici, on est donc au Mont des Cats. Alors, c'est pas le sommet le plus élevé de la région, mais la vue, là aussi, est à couper le souffle. On a sous les yeux un véritable tableau vivant qui s'étend à perte de vue. Le Outland, ou Pays aux Bois. Et par endroit, on pourrait dire central. Tableau vivant qui s'étend à perte de vue. Le Outland, ou Pays aux Bois. Et par endroit, on pourrait vraiment se croire dans le Massif Central. Ou Pays aux Bois. Et par endroit, on pourrait dire central. Endroit, on pourrait vraiment se croire d'été, c'est tout en haut trône un majestueux monastère où vit encore une vingtaine de moines. Ils sont là pour veiller sur ce paysage unique. Mon conseil pour découvrir le Mont des Cats petit à petit, c'est de partir de la commune de Berten. C'est au pied du mont, et là on vous propose une randonnée facile et agréable. Faut compter environ 1h15 pour une boucle de 4,5 km. Et c'est vraiment parfait pour profiter du paysage sans se presser. Et puis, petit bonus, les chiens sont les bienvenus, c'est rare. Et à certains endroits, on peut même les laisser courir librement. Ah, au fait, il existe aussi plusieurs théories sur l'origine du nom du Mont des Cats. Par exemple, certains ch'tis pensent que le mot « cat » signifie tout simplement « chat ». Eh bien, en réalité, il s'agit d'une ancienne peuplade germanique, les Cats, qui vivaient dans la région au 5e siècle. Et c'est bien eux qui ont donné leur nom à ce mont. Alors moi j'aime cet endroit déjà pour la beauté sauvage des paysages. Ici vraiment il y a la nature qui vous enveloppe et on est dans une ambiance c'est presque mystique. Il y a quelque chose dans l'air, une énergie particulière qui pousse à la réflexion. Quand j'y vais, moi je laisse mon portable de côté, sauf quand je suis tenté évidemment de prendre une belle photo. Emmanuel de Quillac est architecte paysagiste. Il est propriétaire du Jardin des Récollets à Cassel, mais il connaît aussi très bien le Mont des Cats.
Bonsoir tout le monde. So great to be back here. Thanks for having us. We'll be right back.
faut au sommet du Mont Deka, on peut observer de plus près le monastère dont je vous parlais un peu plus tôt. C'est un imposant édifice en briques rouges au style typique du 19e siècle. Il a été récemment restauré. À l'intérieur, des moines vivent fidèles à la tradition cistercienne. Et ils fabriquent plusieurs sortes de fromages depuis 1849. Comme le Mont Deka, qui est inspiré de la célèbre recette de l'abbaye du Port du Salut. Alors la boutique, c'est le seul endroit qui se visite. Le monastère n'est pas ouvert au public, sauf pour ceux qui participent aux retraites spirituelles proposées ici. Ah, au fait, chaque troisième dimanche d'octobre, pour la Saint-Hubert, on célèbre ici la Passion du Cheval. Plus de 200 cavaliers en grande tenue gravissent le mont, accompagnés de dizaines de sonneurs de trompe. Si vous avez l'occasion, ça vaut vraiment le coup de venir à ce moment-là. À 5 minutes en voiture du monastère, on est au pied du Mont Deka, on trouve deux villages qui valent aussi le détour. Ils sont juste à côté de la frontière belge. Il y a Berten, mais moi j'ai un petit faible pour Godwarsveld. Dans ce village, on trouve des habitations flamandes avec des jolies façades et des volets en bois de couleur pimpante. C'est là qu'il y a le musée de la vie frontalière. On y découvre les ruses des fraudeurs. Cachettes dans les vêtements, double fond dans les charrettes ou valises truquées. C'est vraiment une visite incontournable pour mieux comprendre l'histoire et les réalités du commerce clandestin à la frontière. C'est aussi l'occasion de voir l'un des derniers cafés boucherie. C'est une boucherie, mais qui sert aussi des cafés et des bières.
Alors c'est amusant, il y a très très longtemps, j'étais jeune, hein, et alors on parlait des estaminets, mais qu'est-ce que c'est les estaminets? On en parlait beaucoup en Belgique, hein, c'était dans les années 80. En Flandre française, on n'en parlait pas, ou très peu, et un jour on m'a amené à Godwarsveld, et je rentre à un endroit hors du temps, et c'était le Bloorzhof. C'est là que j'ai découvert vraiment la gastronomie flamande, notamment le potjevlech, le hotspot, le waterzooi.
Je vous conseille vraiment de vous arrêter dans l'une de ces auberges typiques de Flandre. L'estaminet, c'est tout d'abord une ambiance. Il y a du houblon suspendu au plafond, des objets anciens qui racontent la Flandre, et une atmosphère vraiment chaleureuse. Si vous deviez choisir un plat, moi j'ai un petit faible pour la carbonade flamande. C'est un bœuf mijoté longuement dans la bière, accompagné de ses frites cuites à la graisse de bœuf pour encore plus de saveur.
Alors, petite anecdote, il y a un personnage célèbre ici, il s'appelait Francis Albert Victor Delbar. Vous dites, oh oui, on ne le connaît pas.
Vous vous rappelez, je vous avais dit au début de l'épisode qu'un chanteur de notre région avait pris le nom de cette commune du Mont Deka. Eh bien, c'est Raoul de Godwarsveld.
Quand la mer monte, j'ai honte, j'ai honte. Je ne chante pas très bien, désolé.
Dans le reste de la France, on le connaît surtout parce qu'il a repris une chanson typique du Nord, le Petit Quinquin. Mais ici, c'est une véritable institution. Et s'il a pris le nom de ce village, c'est parce qu'il a commencé à répéter ses chansons. J'ai une super adresse à vous proposer. Elle est située sur la route de l'abbaye. Ça s'appelle le Mont Deka perché. Et c'est vraiment un lieu insolite. Ici, on dort dans une cabane perchée à 3 mètres du sol, avec une vue panoramique sur les monts de Flandre. En plus, les tarifs sont vraiment très raisonnables et avec un supplément, on peut même profiter d'un jacuzzi sur la terrasse de la cabane. Si vous avez encore un peu de temps devant vous, si votre week-end n'est pas terminé, j'ai une dernière idée pour vous. On va grimper au Mont Noir, c'est à 10 minutes d'ici en voiture, et on va tester l'attraction la plus insolite de Flandre.
En 1958, les Autrichiens sont arrivés, on va dire, ici sur le Mont Rouge et le Mont Noir. D'où l'idée de construire un télésiège qui relie donc le Mont Noir au Mont Rouge. Premièrement, donc, pour le tourisme, mais aussi également pour la vue magnifique qu'on peut voir entre les deux monts.
On est maintenant au Mont Noir, à Saint-Jean-Scapel, sur la frontière belge. Quand on arrive ici, on tombe sur une grande rue commerçante avec d'un côté les boutiques françaises et de l'autre les boutiques belges. Mais si on avance un petit peu, au bout de la rue, on arrive au pied d'un télésiège, le télésiège Cordoba. Il est exploité depuis près de 70 ans et il n'a pas changé depuis son installation. Tous les week-ends et tous les jours en été, il relie le Mont Noir au Mont Rouge en Belgique. Alors c'est un parcours qui fait à peu près 900 mètres, à environ 10 mètres de hauteur. On monte par deux sur un siège, sans garde-corps et repose-pied, il y a juste une petite chaîne. Mais je vous rassure, le voyage de 10 minutes se fait en douceur, donc très peu de risque de tomber. Ce qui est super, c'est qu'on survole des vignobles avant d'entrer dans une zone boisée où se trouve un magnifique moulin. Pour 6 euros, on peut faire un aller-retour sans descente. Moi, j'aime bien le télésiège du Mont-Noir, parce qu'une fois qu'on a franchi le petit stress du départ, eh bien, on passe vraiment à un moment précieux de détente et d'évasion. Quand on observe le décor qui défile sous nos pieds, eh bien, on a parfois vraiment l'illusion de voler.
Le côté droite, vous voyez la France. S'il fait bien clair, les terrils de Lens et tout ça, vous voyez. Donc, si on regarde en bas, en fait, on voit les vignes de Entre-deux-Monts.
Avant de quitter le Mont-Noir, j'ai un dernier conseil à vous donner. Allez faire un tour au parc départemental du Mont. C'est un domaine de 50 hectares qui regorge de paysages pittoresques avec une faune et une flore sauvage exceptionnelles. En plus, du parc, on peut voir la villa de l'écrivaine Marguerite Yourcenar. Elle y a passé beaucoup de temps dans sa jeunesse et elle évoque souvent ce lieu dans ses écrits. C'est une maison au style néo-normand très jolie qui est aujourd'hui une résidence d'écrivains. Mais ça, vous le découvrirez quand vous viendrez.
Promis. Merci Emmanuel Bordeaux à Dissinor pour cette balade au cœur des Monts de Flandre. Une bonne idée pour visiter la région autrement. Cet épisode de Partir à moins d'une heure de Lille est en réécoute sur ici.fr et sur l'appli Ici. Demain, rendez-vous à la même heure pour partir à Épernay pour découvrir le terroir autour des vignes de Champagne. Nous continuons en musique maintenant avec Ten Sharp, You, sur votre radio Ici.
I won't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Dragging out. Why?
16h30. Il est temps pour moi de vous souhaiter un bon après-midi en musique. Et je vous dis à demain sur votre radio ici.
Ici Gironde. Toute la journée.
Actu locale, musique.
Et 13h30, bonjour et bienvenue sur Ici Gironde. Nous sommes mardi et nous allons passer cet après-midi ensemble. Olivier Cabrolier, je suis très heureux de vous retrouver jusqu'à 17h.
Ici Gironde, tous les jours à vos côtés.
Si vous cherchez un spot parfait pour décompresser en fin de journée aux portes de Bordeaux, direction Blanquefort, le château Saint-Aon vous ouvre ses portes pour un nouvel after-work de l'été. En plus d'y passer une bonne soirée à côté des vignes, vous allez découvrir un cadre magnifique qui vous fera peut-être penser à un autre château version miniature, celui de la Star Academy. Vous allez plonger dans la nature pour profiter d'une ambiance hyper conviviale et donc ce jeudi 27, vous allez retrouver de la musique live pour rythmer la fin de journée, accompagné par un food truck gourmand et les incontournables de l'été avec les terrains de pétanque, le baby foot et le fameux Molky. Avec votre entrée, vous aurez le droit à un verre de vin du domaine d'appellation au Médoc ou d'un jus de raisin local, évidemment accompagné de belles planches de charcuterie et de fromage. Venez trinquer à l'after work, c'est au château Saint-Aon ce jeudi. Très bel après-midi à vous à suivre, c'est Laurent Voulzy sur Ici Gironde.
Ici Gironde.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Je Laurent, il est l'heure de dormir maintenant. Enlève tes lunettes. Play the game, Laurent. Play the game, Laurent.
Ici Gironde, c'était donc les Nuits sans Kimwild de Laurent Voulzy. Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien en cette dernière semaine du mois d'août et donc finalement de cet été 2026. Même si vous êtes nombreux à profiter du mois de septembre pour prendre par exemple des vacances ou pour vous reposer, on vous accompagne en tout cas partout en Gironde, dans le département, dans les prochaines minutes. À 13h45, notre Girondin du jour, il s'agit d'un habitant du Médoc qui va nous raconter son histoire, celle d'une vidéo sur les réseaux sociaux qui a changé sa vie avant cela. Voici Jennifer qui reprend en 2026 le titre légendaire de Dalida. Voici Mourir sur scène sur Ici Gironde.
Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi. Mais ne viens pas quand je serai seule. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquille dans leur sommeil. Moi de près, souviens-toi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seule. Choisis plutôt un soir de gala si tu veux danser.
palace. 49 Champs-Élysées, Saint-Michel and Old Beaujolais wine. I recall that you were mine. Parisian day. Looking back at the photographs, those summer days spent outside corner cafes. Ooh, I could write you paragraphs about
à l'instant sur Ici Gironde, il est 13h45, c'est l'heure de découvrir notre Girondin du jour, cet homme qui est médocain, qui a perdu une partie de l'histoire de sa famille durant les incendies de cet été, mais une vidéo a peut-être changé la donne. Elle a créé un élan de générosité. Écoutez plutôt.
Oui, bonjour. Alors je m'appelle Jean-Denis Bibian. Je suis né à Somos, là où il y a eu tous ces incendies, Somos, le porche, le temple, etc. Je suis né dans cette maison qui a été dévastée par le feu le vendredi à 22h53 exactement.
Jean-Denis est en réalité attaché à deux communes du Médoc, Somos et Listrac-Médoc. Voici un médocain, un enfant du pays, et il en a vécu des coups durs. Mais celui qui l'a frappé cet été reste très difficile à surmonter. Il touche à l'intime, à la famille. Sa maison a été détruite par les flammes, alors qu'il doit surmonter une crise viticole importante depuis sa propriété de Listrac. Interpellé, ému par sa situation, un ami a décidé de faire une vidéo. C'est cette histoire qu'il a voulu nous raconter.
Pierre-Alexandre m'a appelé Oui, je le connais. Oui, c'est un garçon du village voisin. On se connaît tous. Et il était quand même surpris que ma maison soit brûlée. Il m'a appelé, il m'a demandé est-ce que je peux passer une vidéo sur les réseaux sociaux. Puis après, il y a eu un élan de solidarité. Il y a plein de gens qui m'ont appelé pour m'acheter du vin, pour me proposer de l'aide, pour simplement me proposer pour faire les vendanges. Ça aide à relever la tête. Franchement, quand on est seul, abandonné de tous, oui, ça m'a vraiment remonté le moral. Comme je dis, ça m'a redonné du courage pour essayer d'avancer, parce que je ne suis pas tout jeune, j'ai quand même 70 ans.
Vous achetez des bouteilles ou des cartons de bouteilles entiers. Qu'est-ce que ça permet de financer justement votre retraite, de financer votre exploitation, ou peut-être d'envisager la reconstruction de votre maison à Somos?
Un maçon, lui, il pose la truelle, il recommence quand tout va bien. Mais un viticulteur, lui, il faut qu'il taille, il faut qu'il traite, il faut qu'il vendange, il faut qu'il travaille ses sols, il faut qu'il travaille ses vins. Donc nous, ça ne s'arrête jamais, crise ou pas crise, ça ne s'arrête jamais. Donc là, on est obligé de continuer. La priorité, ce serait de reconstruire là où je suis né. Mais ça va me faire mal au cœur de voir les squelettes d'arbres autour de moi, parce que 50 000 hectares brûlés, ça ne va pas se couper comme ça. Donc on va rester des années avec des arbres squelettiques morts autour.
Jean-Denis est un professionnel du vin, passionné et travailleur. Il a racheté la propriété du château Sémillan-Mazot en 2021, mais incontestablement, ce qui lui revient en mémoire en cette fin d'été, c'est le souvenir de cette maison de famille à Somos.
Le sentiment que j'ai, mais autrefois quand il y avait le feu, la sirène du village sonnait, on partait tous au feu. Tous. Et mon grand-père, il avait une petite citerne de 600 litres qui traînait derrière son petit tracteur. Et on arrêtait le feu, parce qu'on faisait des contre-feux. Les gens, ils savaient où était le point d'eau. Et souvent, on arrêtait le feu. Une anecdote toute bête, quand on a pris les affaires pour les quatre fringues, quelques papiers et tout, il y a le portrait de mon grand-père qui était dans ma chambre, je l'ai pris. Voilà, donc lui, je l'ai sauvé. Si je trouve la force pour reconstruire la maison, ce sera peut-être par rapport au respect de mes grands-parents et de mes parents. Voilà.
La reconstruction prendra du temps. Jean-Denis avoue qu'il sera très difficile de bâtir une maison à l'identique, d'autant qu'elle n'est pas assurée.
Ici, votre après-midi en Gironde.
Et la musique, en plus.
Some kind of trouble, some kind of fate. Just don't ask.
Ici Gironde, c'était cette très belle chanson de Suzanne Vega en 1987 à l'instant. Ici Gironde qui est avec vous, on vous accompagne tous les après-midi partout dans le département et dans quelques minutes, il sera 14h, vous avez rendez-vous avec les infos de la rédaction. Auparavant, on vous ouvre les vannes, celle des tubes avec Gérard Blanc et Julien Lib, tout de suite sur Ici Gironde.
Sur Ici Gironde.
Ici, c'est vous, au cœur de vos préoccupations.
Tous les matins à 9h, Nicolas Fauveau vous donne la parole.
Votre quotidien, vos questions, vos préoccupations du moment.
Ici, c'est vous, c'est votre émission.
Ici, c'est vous, votre nouveau rendez-vous 100% Gironde et utile entre info et humeur.
Ici, c'est vous, votre quotidien est sur Ici Gironde.
Demain, dès 9h,
à la radio et sur l'application mobile Ici. Ici Gironde.
Sur la route, au travail, à la maison.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Je cherche encore quelque part un peu de nous. C'est ton regard qui m'aide parce que c'est flou. Il faut qu'aujourd'hui tu comprennes que j'ai des doutes. Que les non-dits se transforment en j'en ai rien à foutre. Et sincèrement, même dans les échecs, on garde le pont. Et même si notre histoire un jour a vu le soleil, dans mes souvenirs, on a trop perdu de temps. J'aimerais que le vent se lève. Si seulement, si seulement, autrement, autrement. Si seulement on s'était dit les choses, si seulement il y avait eu les mots autrement. Si seulement on s'était dit les choses, si seulement il y avait eu les mots autrement. Si seulement.
Dessiner nos sourires. Je rêve du parfum de tes soupirs. C'est pas normal, non c'est pas normal. De faire semblant, seul on s'en sort mal. On n'a plus le temps. Je vis dans tes repères, j'ai des larmes de pierre. Je veux qu'on se souvienne que le silence nous perd. Je veux que tout s'arrête et que le vent se lève. Je viens de faire mes aveux.
Chanson préférée toute la journée,
c'est Ici Gironde.
radio, une appli au cœur de la Gironde. Ici Gironde.
Ici Gironde, nous sommes le mardi 25 août aujourd'hui, il est 14h.